Non.
Très bien.
Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je sois en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Voilà, 19h passé de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios, en ce jeudi 4 septembre. Il est l'heure de ce Canu Info, la plage d'information de la plus rebelle des radios, avec l'équipe du jeudi, emmenée bien évidemment par Delphine.
Oh, bonsoir très cher Laurent, bonsoir à tous et à toutes.
Voilà, et Laurent, et nous allons faire le tour de l'actualité, nous allons parler un peu d'international, avec des infos autour de la Russie, de Gaza, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, de l'Algérie, des choses comme ça. On va parler un petit peu de science et de conspirationnistes qui abusent et qui utilisent la science. On parlera un petit peu de la gauche, de la droite, de la droite, de la gauche. Enfin, on ne sait plus bien où se situent nos amis Valls et consorts. Nous parlerons un petit peu de choses ayant lieu à Lyon. On parlera un peu de social, un peu de Gérard Collomb, un peu de pollution, un peu de nucléaire. Enfin voilà, pas mal de choses. On ouvre ce Canu Info par la Russie.
Oui, alors effectivement, on va commencer par la Russie qui est à l'actualité pour bien des raisons. Et je voudrais revenir sur ce qui s'est passé côté répression en Russie fin août. Le 28 août dernier, le ministère russe de la Justice a ajouté deux nouvelles ONG à sa liste officielle d'agents de l'étranger. Vous savez, ça fait suite à la loi adoptée en 2012. C'est un texte qui donc s'appelle la loi sur les agents de l'étranger, qui est entré en vigueur en novembre 2012. Il y a eu des modifications apportées très récemment, hein, qui ont donné de nouveaux pouvoirs au ministère de la Justice, qui peut désormais agir sans qu'il soit nécessaire de passer par les audiences au tribunal, comme c'était le cas jusqu'à tout récemment. Et à la base, c'est déjà une loi liberticide, mais alors là, il y a eu un petit niveau de plus. On vous rappelle que l'idée d'être un agent de l'étranger, c'est que vous êtes donc soupçonné de financement venant de l'étranger et que vous avez des participations à des activités politiques. Donc ces deux nouvelles ONG sont les Mères de Soldats de Saint-Pétersbourg et l'Institut pour le Développement de la Liberté d'Information. Globalement, comme beaucoup d'autres actuellement, ils ont simplement été censurés. Il faut dire que les Mères de Soldats de Saint-Pétersbourg, cette organisation a établi une liste d'une centaine de soldats russes qui auraient été tués en Ukraine Ukraine et d'environ 300 blessés. L'organisation a demandé l'ouverture d'une enquête. Alors, comme la Russie nie avoir envoyé des soldats en Ukraine et qu'elle cherche à faire disparaître toutes les informations sur ses activités militaires actuelles, évidemment, les organisations comme les maires de Saint-Pétersbourg, les maires de soldats de Saint-Pétersbourg, subissent évidemment cette répression et cette censure. Surtout qu'avec cette loi, c'est quand même très facile d'être visé. C'est des centaines d'organisations en Russie qui actuellement subissent cette répression. En l'espace de 3 mois, d'un trimestre, il y en a déjà une douzaine qui ont été ajoutées à cette fameuse liste des agents étrangers. Donc ça se passe bien, cette politique autoritaire, répressive, fasciste en Russie. Et puis donc la Russie est évidemment dans l'actualité pour sa participation au conflit en Ukraine, qu'elle nie, comme je vous le disais. Alors, il faut savoir qu'avant de parler de ça, il se passe d'autres choses dans cette politique intérieure. Je reviendrai un petit peu sur les relations internationales par la suite. Comme je vous le disais, il y a une politique répressive, autoritaire, nationaliste. Donc après l'échec de la Coupe du Monde de football, le ministre des Sports, Vitali Mutko, a annoncé hier que la Russie réduirait le nombre d'étrangers dans les clubs sportifs du pays. Une idée que le Front National français apprécie. Tout autant. Alors c'est une loi qui est en préparation, elle est annoncée pour le début de l'année prochaine et elle prévoit par exemple que dans les clubs de football, les étrangers ne seraient plus que 6 au maximum. Par exemple dans le basket, ce serait plus que 3 joueurs étrangers. Alors l'idée de tout ça, c'est que la loi elle a un principal but, c'est de rendre l'équipe nationale de football plus compétitive en vue de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en Russie en 2018. Voilà, il y a une idée que si jamais il y a plus de joueurs qui jouent dans les clubs en Russie, plutôt que les étrangers qui volent le travail donc de ces joueurs russes, eh ben ils seront plus compétents, parce qu'ils joueront plus souvent, qu'ils seront mieux entraînés et qui seront peut-être plus motivés.
Voilà, parce que pour les Coupes du Monde, il faut être du pays pour jouer, alors que pour les autres compétitions sportives, il faut être juste embauché par le club. D'ailleurs, il y a les astuces que font la France, par exemple, parmi les pays, c'est qu'elle naturalise les joueurs qu'elle veut intégrer dans les équipes nationales, avec une énorme discrimination. Si vous êtes pauvre et pas sportif, vous rentrez en France, vous êtes expulsé. Si vous êtes sportif super bon, vous pouvez être naturalisé beaucoup, beaucoup plus facilement.
Ouais, l'idée, c'est que les sportifs russe est un rôle de premier plan. On revient à l'ère soviétique, le sport devient une arme de propagande. Alors de son côté, l'Union européenne cherche de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie en cas de nouvelle aggravation du conflit en Ukraine. Et le sport spectacle arme de propagande est visé. Alors d'après un document de travail discuté par les États membres, les Européens envisagent de boycotter la Coupe du Monde de football en Russie en 2018. Je souris en vous le disant. Alors l'idée est plus large, elle est d'exclure temporairement la Russie des grands événements internationaux, qu'ils soient économiques, culturels ou sportifs. Je vous rappelle que la Russie a déjà été suspendue du club du G8. Le sommet qui devait se réunir en juin à Sochi s'est déroulé à Sète et à Bruxelles. Alors à côté de ça, on a donc face à ces idées de boycott que l'Europe pourrait avoir, on a des réactions. Alors une des réactions qui est arrivée pendant l'été, puisque c'est des discussions qui sont déjà en cours depuis un petit moment, puisqu'on a eu des élus allemands, le vice-premier ministre britannique qui se sont dit favorables à ce boycott. La FIFA a donc réagi en juillet et elle estime que l'histoire a montré que le boycott des événements sportifs n'était pas la solution la plus efficace pour régler le problème. On n'en doutait pas moins de cette réaction de la FIFA. Mais elle n'est pas la seule à être anti-boycott. On a eu la réaction de monsieur Christophe de Margerie, patron de Total, qui lui explique que je ne plaide pas pour la Russie, mais pour plus de compréhension. Les sanctions sont une voie sans issue. L'interdépendance économique, en revanche, nécessite un dialogue constructif. C'est ce qu'il a expliqué dans un quotidien allemand. Alors, il faut savoir que la Russie, c'est un pays important dans la stratégie Total, qui ambitionne d'en faire sa principale zone de production d'hydrocarbures aux alentours 2020. Ça voit loin quand même. Donc, voilà, il y a évidemment des gens qui sont intéressés dans l'affaire et qui aimeraient bien que les choses s'assouplissent. Vous avez peut-être pu entendre par exemple ses appels au soutien désespéré de ses producteurs de pommes françaises qui les envoient en Russie. Alors on se demande bien pourquoi ils envoient les pommes en Russie, mais c'est pareil pour la tomate espagnole, ils sont désespérés aussi, parce qu'ils aimeraient bien qu'il n'y ait pas de blocage, que tout se passe bien. Alors, pour l'instant, l'urgence de la Russie, en tout cas ces derniers jours, en plein sommet de l'OTAN, cette fin de semaine au Pays de Galles, ça a été de minimiser la conversation téléphonique qui s'est tenue mardi entre M. Barroso, le président de la Commission européenne, et M. Poutine. M. Poutine ayant déclaré qu'il pourrait, s'il le voulait, prendre Kiev en 2 semaines. Alors une nouvelle provocation qui en fait n'est pas restée secrète, puisque M. Barroso a rapporté aux chefs d'État et de gouvernement européens réunis en sommet le week-end à Bruxelles. Un petit peu de rapportage hein, comme ça. Alors le porte-parole russe a d'ailleurs estimé que M. Barroso avait agi de manière incorrecte et non diplomatique en rendant la conversation publique, hein, sur le ton de « c'est pas beau la délation ». Alors, l'Ukraine, de son côté, espère un cessez-le-feu demain. Le Mistral partira pas, hein, puisque c'est temporaire, c'est une suspension. Ça a bien été répété encore aujourd'hui par M. Hollande. Donc voilà, des petites affaires économiques hein, au milieu d'un conflit que subissent des gens sur place quand même.
Voilà, tout ça nous rappelle 2 trucs. 1, que la France est un des gros producteurs de morts dans le monde, puisqu'on est, on doit être le 4e fabricant d'armes dans le monde, et on vend que à des pays démocratiques, hein, c'est sûr, l'Arabie Saoudite, la Russie, j'en passe et des meilleurs, je vais pas tous les citer, mais voilà. Donc ça nous rappelait ça, et ça nous rappelait aussi une deuxième chose, c'est que la Russie, qui sont accusés de tous les maux, et qui sont bien évidemment parti pris, ça... c'est difficile de ne pas le reconnaître, notamment en soutenant les nationalistes russes ukrainiens, ceux qui ne sont pas vraiment ukrainiens parce qu'ils ne s'assument pas ukrainiens, mais ils se prétendent bien nationalistes russes. On prend des sanctions, alors que cet été, il y a eu une guerre de la part d'Israël contre les Palestiniens de la bande de Gaza, et l'Europe a pris aucune sanction. Donc voilà, ça démontre que avant tout, c'est un enjeu de politique politicienne d'essayer de faire plier le géant russe pour le remettre à sa place, alors que Poutine a annoncé notamment cet été vouloir renforcer le grand russe, la grande Russie, donc ces élans un peu nationalistes autoritaires hein, dont on connaît le personnage. C'est bien pour ça que on s'acharne sur la Russie et qu'on n'a jamais rien dit à Israël pour les plus de 2000 morts de l'été, notamment des femmes, des enfants, enfin des civils. Alors on va revenir sur Israël et sur cette guerre dans la bande de Gaza, ce massacre de la bande de Gaza, avec une réaction intéressante à signaler qui est partie des États-Unis d'Amérique, très exactement au départ 327 survivants juifs et descendants de survivants du génocide nazi ont publié une lettre dans un journal américain, le New York Times, en réponse à la lettre horrible publiée par Elie Wiesel le 23 août dans le New York Times. Donc voilà, depuis, c'est passé à 350, puisque des personnes se sont rajoutées. Alors que disent ces 327 survivants juifs et descendants de survivants de la Shoah ? Je vais lire la traduction de la lettre, ça vous donnera une idée. Je cite donc, « En tant que survivants et descendants des survivants juifs et victimes du génocide nazi, nous condamnons sans équivoque le massacre des Palestiniens à Gaza, ainsi que l'occupation et la colonisation de la Palestine. Nous condamnons par ailleurs les États-Unis pour avoir donné à Israël les financements qui lui ont permis de mener l'attaque, et les États occidentaux plus généralement qui utilisent leurs muscles diplomatiques pour protéger Israël de toute condamnation. » Nous sommes inquiets de l'extrême et raciste déshumanisation des Palestiniens dans la société israélienne qui atteint son paroxysme. En Israël, les politiciens et chroniqueurs du Times of Israel ou du Jerusalem Post ont appelé ouvertement à un génocide des Palestiniens et certains militants israéliens d'extrême droite reprennent même maintenant des symboles néo-nazis. En outre, nous sommes dégoûtés, indignés par le fait qu'Elie Wiesel, qui fait une utilisation abusive et malhonnête de notre histoire dans des pages qui justifient l'injustifiable, l'effort massif israélien pour détruire Gaza et assassiner plus de 2000 Palestiniens, y compris de nombreux enfants. Rien ne justifie le bombardement d'abris de l'ONU, de maisons, d'hôpitaux, d'universités. Rien ne justifie le fait de priver les gens d'électricité et d'eau. Il faut élever nos voix collectivement et utiliser notre force collective pour mettre un terme à toutes les formes de racisme y compris le génocide en cours dont est victime le peuple palestinien. Nous appelons à ce que le siège et le blocus de Gaza soient levés sur le champ. Nous appelons à un boycott économique, académique et culturel d'Israël. Bon, traduction un peu approximative quelquefois, mais voilà donc cette lettre de ces juifs états-uniens, ce qui nous rappelle qu'effectivement que cette guerre, c'est bien une guerre d'Israël contre d'une partie du gouvernement israélien soutenu par la grosse majorité de sa population contre les Palestiniens, et ça n'a rien à voir avec l'idée raciste, hein, que ce sont bien les juifs qui attaquent les méchants arabes musulmans, puisqu'on rappelle que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, que les Palestiniens sont athées, musulmans, chrétiens aussi, on le rappelle, et que ça n'est pas une guerre de religion, ça n'est pas une guerre ethnique, c'est avant tout une guerre de territoire dans le but de conquérir l'ensemble de la Palestine historique par l'État israélien. Donc voilà, c'était à signaler quand même cette lettre positive. Je sais pas, il n'y en a pas eu énormément comme celle des réactions cet été.
Alors on va partir en Turquie. La Turquie accueille depuis mardi et jusqu'à demain à Istanbul le 9e forum de l'ONU sur la gouvernance Internet. Rencontre qui doit réunir pendant 4 jours 2500 délégués, gouvernements, entreprises, ONG, vous avez compris le principe. Alors l'idée de cet événement, c'est le partage des bonnes pratiques sur Internet en matière de réglementation, de sécurité et de droits humains. Alors, c'est une situation plutôt surprenante. Si c'était pas grave, nous pourrions en rire. Le mois dernier encore, le nouveau président, monsieur Erdogan, comparait Twitter au couteau dans les mains d'un meurtrier. En mars dernier, monsieur Erdogan, alors premier ministre, avait ordonné le blocage de Twitter et de YouTube. Je vous rappelle qu'au nom de la protection du droit à la vie privée, il protégeait surtout ses arrières et ceux de ses amis. Son gouvernement avait fait voter une loi renforçant le contrôle des contenus Internet. Quelques semaines plus tard, la plus haute juridiction turque, la Cour constitutionnelle, a jugé ces mesures illégales et ordonné leur levée. Alors, au début de ce forum, il y a bien eu quelques remarques diplomatiques, très diplomatiques, qui ont été tenues par certains représentants officiels, mais rien de révolutionnaire. Alors, parallèlement à ce forum, s'ouvre un procès qui vise 29 personnes qui sont poursuivies par un tribunal d'Izmir. Ils sont poursuivis pour avoir relayé des appels à manifester en juin 2013. Alors, aucun des messages n'incitait à la violence. Alors, ils sont accusés d'incitation à violer la loi. Ils risquent une peine de prison de 3 ans, tout de même. Alors, évidemment, c'est un procès qui tombe pas bien au milieu de ce forum. Alors, les représentants du gouvernement ont tenté d'étouffer l'affaire. Alors, au choix, avec des discours menaçants du type du ministre des Télécommunications qui a insisté sur l'importance de surveiller les autoroutes de l'information au nom de la lutte contre le crime. Ou alors, on a eu la propagande du bonheur collectif avec les déclarations du président de l'autorité gouvernementale des télécommunications qui lui s'est félicité de la démocratisation de l'accès à Internet. Enfin, on pousse tout ça sur le tapis et surtout, on essaye de pas en parler. Alors, c'est des internautes hein, qui sont pas les premiers, qui seront malheureusement pas les derniers. Ils sont dans une longue liste actuellement. Alors, la nouvelle du jour, c'est cette petite condamnation, celle d'un policier, Ahmed Sabaz, qui avait tiré une balle en pleine tête d'Ethem Sarısoğlu lors d'une manifestation. C'était en 2013. Ethem était décédé après 2 semaines de coma. Le policier a été condamné hier à 7 ans et 9 mois de prison. Quand même pas grand chose, et c'est cette clémence qui a fait que il y a eu quelques échauffourées à l'intérieur du tribunal, puisqu'il y a eu des jets de bouteilles par exemple. C'est quand même un an de procédure hein, quand même la famille les militants attendaient un peu mieux. Le tribunal a reconnu des circonstances atténuantes puisqu'il le tribunal a estimé que le policier avait été victime de provocations de la part des manifestants. Alors bon, c'est énorme comme circonstance atténuante. Pourtant, le procureur, lui, il avait requis une peine de prison de 33 ans contre le policier. Il avait obtenu que ce flic soit placé en détention provisoire, puisque le début du procès, ben, il se baladait. Alors cet été, il avait quand même été placé derrière les barreaux. L'avocat de la famille a annoncé très rapidement que il allait faire appel. La famille estime que seule la prison à vie suffira pour la peine et la douleur. Et puis ce geste, voilà, la Turquie continue de se battre avec sa violence. Il y a quatre autres policiers qui sont visés dans un autre procès. Ça bouge beaucoup toujours en Turquie, malheureusement, et pas dans le bon sens. Alors on va partir ailleurs, mais non, on va continuer à parler de répression. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, malheureusement, c'est pas le bonheur partout, hein. C'est plutôt rare, il paraît même. On va partir en Arabie Saoudite, vous savez, un pays que la France aime beaucoup, que notre État aime beaucoup, notre gouvernement aime beaucoup. Alors c'est lundi un verdict qui a été rendu par la cour d'appel de Riyad qui confirme la peine de 10 ans de prison et de 1000 coups de fouet ainsi qu'une amende d'un million de rials saoudiens, ça fait environ 200 000 euros pour Raif Badawi. Raif Badawi, c'est le cofondateur d'un site internet qui s'appelle Liberal Saudi Network, c'est un réseau de discussion et d'échange qui se veut libre. Malheureusement il l'est plus puisque les autorités saoudiennes ont fermé le site. Raif Badawi, vous avez bien compris, hein, 1000 coups de fouet avec les 10 ans de prison et l'amende, à côté l'amende c'est rien. Il a été par ailleurs frappé d'une interdiction de quitter le pays pendant 10 ans après sa libération et il a plus le droit d'exercer d'activité dans les médias. Alors, c'est une loi qui date, excusez-moi, de 2012 contre qui soi-disant lutte contre la cybercriminalité. Toujours cette même excuse qui revient. Voilà, c'est bien pratique, hein, pour réduire les activistes, les militants en Arabie Saoudite au silence. Je vous rappelle, si vous avez comme ça, c'était sorti de votre cerveau, 164e place pour l'Arabie Saoudite au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. C'est pas terrible, mais c'est pas mieux pour l'Algérie qui, lundi, le même jour, un sacré jour, c'est la cour de Gardaïa qui a confirmé la peine de 2 ans de prison pour Youssef Oul Bada. Youssef Oul Bada, il a été condamné en mars dernier, à 12 ans de prison ferme, donc pour publication de photos et de vidéos qui touchent à l'international. Alors en fait, il avait simplement relayé sur sa page Facebook une vidéo où l'on voit des policiers en train de dévaliser un magasin pendant les affrontements qui avaient secoué la ville de Gardaïa en 2013. Donc voilà, il a fait que rapporter ça, hein. Il a toujours nié être l'auteur de la vidéo, surtout que c'est une vidéo qui a été repris par les médias locaux et puis même au niveau international. Alors personne d'autre n'a été inquiété et certainement pas les policiers qui sont très reconnaissables sur cette vidéo, hein, bien évidemment, ils n'ont pas été poursuivis. Voilà, l'État algérien continue, hein, d'envoyer un signal très très fort à ceux et celles qui oseraient s'opposer à ce qui est en train de se passer, de raconter ce que la police est en train de faire, de parler de la corruption. Alors la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qu'on salue parce qu'ils sont un petit peu courageux quand même, va se pouvoir en cassation pour essayer d'aider Youssef Oul Bada dans son malheur. Et puis alors, parler d'une autre affaire, parce que parfois la vie est un long fleuve tranquille, alors pas pour Youssef dont je viens de vous parler, mais pour Nasser. Nasser, c'est un prince du Bahreïn, c'est le 4e fils du souverain Ahmad Nasser bin Ahmad El Khalifa, 27 ans, commandant de la garde royale et président du Conseil suprême de la jeunesse et des sports, a participé très très tranquillement aux Jeux équestres mondiaux en Normandie. Oui.
Oui, un petit prince d'un régime ultra totalitaire, quoi.
Ouais, ouais. Alors vous savez, c'est une histoire de famille, hein. La plupart des ministres sont des membres de la dynastie Al-Khalifa. Alors, Il faut savoir que Monsieur Al-Khalifa, fils numéro 4, est particulièrement actif dans la répression avec son frère, son plus jeune frère Khalid. Il a l'habitude de se présenter avant la torture aux opposants politiques. Il participe lui-même aux séances de torture en utilisant les chocs électriques. Il s'aide parfois de divers outils. Ces tortures sont accompagnées de nombreuses humiliations. Alors si on sait tout ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont témoigné, qu'il y a des organisations qui ont récolté ces témoignages. Son papa doit être vraiment très très fier de lui. Alors il y a un rapport qui est sorti avec un titre extrêmement direct. Les citoyens sous l'emprise des tortionnaires, il a été publié par le Forum Bahreïni pour les droits humains. Il détaille les actes commis par M. Al-Khalifa après les protestations de 2011. Alors, c'est un habitué de la torture et de la répression. Alors, un petit rappel, il a déjà eu des soucis, Monsieur Al-Khalifa, puisqu'en 2012, il s'est rendu à Londres pour les Jeux Olympiques. Et là, il y a une ONG qui avait tenté de bloquer son visa. La procédure n'avait pas abouti. Mais par la suite, il y avait un citoyen, bahreïnien, réfugié au Royaume-Uni, qui a déposé une plainte contre Monsieur Al-Khalifa pour des actes de torture. Pour l'instant, il est protégé, enfin, les autorités du Bahreïn se protègent derrière une immunité diplomatique, puisque, comme je vous l'ai dit, il est commandant de la garde royale, ça mérite bien une petite protection en tant que diplomate. Donc là, il y aura une conclusion en octobre pour savoir si il peut être présenté ou pas devant la justice, s'il est protégé ou pas. Alors, en France, on peut dire que les autorités, elles sont pas du tout pressées d'agir. La Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme a demandé à la justice française de poursuivre et d'interroger Monsieur Al-Khalifa. Alors, il faut croire que le maintien des relations diplomatiques et économiques avec le Bahreïn prime. Vous allez me dire comme d'habitude, bien sûr. Fin août, le père de ce prince, le roi Ahmad Ben Issa Al-Khalifa, a été reçu à l'Élysée par Monsieur Hollande. C'est un entretien qui ne figurait pas à l'agenda officiel de notre cher président. On ne connaît toujours pas, évidemment, la nature de cette visite. Pourtant, je vous rappelle que la justice française peut tout à fait intervenir pour poursuivre Monsieur Al-Khalifa. Elle est compétente. La France a ratifié la Convention contre la torture, donc elle a obligation, normalement, de poursuivre, d'arrêter, de juger les personnes qui se trouvent sur son territoire et qui sont soupçonnées d'avoir accompli des actes de torture. Je vous rappelle, quel que soit le pays où ces actes ont été accomplis, quelle que soit la nationalité de l'auteur et de la victime. Voilà, donc sport, argent, luxe, je vous laisserai aller voir sur internet, ce monsieur Al-Khalifa est très présent, vous verrez, jeune homme de 27 ans, brun, qui s'habille avec le luxe et qui monte des chevaux, forcément ça fait des jolies photos sur internet, mais voilà, c'est un tortionnaire, point final, et on l'a laissé se balader en France bien tranquillement.
Alors, c'est la rentrée, vous avez tous bien conscience que tout le monde se remet au travail, les groupes politiques aussi, et les conspirationnistes reviennent à la charge aussi, régulièrement. Alors, ce soir, on va démontrer scientifiquement une aberration qui était portée par ceux qui remettent en cause les attentats du 11 septembre aux États-Unis. En France ça s'appelle Reopen 9-11, je cherchais le nom. Alors globalement au niveau mondial ça s'appelle The 9-11 Truth Movement. Donc bon, ils militent depuis des années pour la réouverture des enquêtes sur les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les deux tours du World Trade Center qui se sont écroulées suite au crash des avions, vous avez tous vu les images des millions de fois. Mais qui, d'après eux, alors une de leurs théories, je vais en démontrer qu'une, il y en a plein d'autres, c'est tout des trucs très facilement démontrables, qui serait le résultat d'une démolition contrôlée à l'aide d'explosifs, et donc c'est bien évidemment une conspiration pour faire croire qu'il y a eu ces attentats, mais que c'était prévu pour justifier toutes les guerres derrière, je ne sais quoi. Alors, par contre, la réutilisation des attentats pour faire des guerres pourrissantes, on l'a bien compris, on l'a bien vu que c'était vrai. Voilà. Alors, il y a des enquêtes techniques et scientifiques sur les écroulements de ces tours, parues dans des journaux à comité de lecture, c'est-à-dire scientifiquement à peu près potables. Et c'est, elles ont toutes démontré hein, que c'est bien les avions qui ont fait tomber les tours, etc. Mais les conspirationnistes qui remettent en cause le 11 septembre, eux, ils ont trouvé un scientifique qui s'appelle Stephen E. Jones, qui, soi-disant, aurait démontré que non, ça s'est pas passé comme ça. Alors lui, il a trouvé dans les cendres du World Trade Center un truc qu'il appelle des chips. C'est de petites écailles qui comportent deux couches, une grise, une plutôt rouge, donc qui serait d'après lui des traces d'un explosif qui s'appelle la nanothermite, que seuls les militaires américains dans le monde seraient capables de produire et qui n'aurait pas totalement explosé. Donc, comment une fois qu'il a cette théorie-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des pseudo-études scientifiques. C'est un scientifique, lui, mais pas vraiment de ce domaine-là et pas très bon a priori. Il trouve un journal un peu sympa qui s'appelle The Open Chemical Physical Journal. Donc, on est en 2008-2009 avec 8 autres co-auteurs. Ils écrivent cet article qui est très attaquable scientifiquement sans aucun problème et qui devrait pas passer dans une revue scientifique puisque normalement il est censé avoir de la relecture par d'autres scientifiques de la branche qui sont tirés au sort par hasard dans les scientifiques qui existent dans le monde. Alors ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Puisque quand l'article est paru, tout le monde est surpris, notamment la rédactrice en chef découvre l'article, donc elle n'était pas au courant, donc du coup elle démissionne. Son remplaçant essaye de faire une enquête pour savoir comment s'est passée la relecture, on lui dit rien, il démissionne, du coup la revue s'arrête pendant 18 mois. Donc la justification scientifique de ces fameux chips, pour l'instant elle est plutôt à l'eau, hein, puisque tout ce qui entoure la publication de cet article semble très très sombre. La revue elle-même s'est arrêtée pour qu'on l'oublie. Donc voilà. Alors, après enquête, on s'est rendu compte que dans les deux relecteurs, il y avait David Griscom, qui est lui aussi un conspirationniste notoire, qui est scientifique, mais qui est spécialisé des matériaux donc cristallins et du verre et de la silice, mais pas du tout de la structure des bâtiments. Donc, alors ça, c'est un principe scientifique important. C'est quand on veut faire justifier un truc non scientifique et faux par des scientifiques, on prend un scientifique qui est pas spécialiste de la branche, un néophyte. Du coup, c'est pas parce que il connaît tel domaine que dans l'autre domaine scientifique, il y connaît quelque chose et que sa parole a une valeur quelconque. Et du coup, voilà comment une des grosses manipulations scientifiques, c'est un système traditionnel hein, de la manipulation scientifique. On avait un ancien ministre soi-disant scientifique qui parlait du réchauffement climatique de cette manière-là. Hein, il n'était pas spécialiste du réchauffement climatique, mais il pouvait donner des trucs en se prétendant scientifique. Bien évidemment, des choses qui se sont avérées, qui s'avèrent fausses, ce qui est le cas pour ça. Alors, je ne vais pas vous refaire toute la démonstration de ce qui s'est passé, mais ça démontre la manière qu'utilise une partie des conspirationnistes, qu'utilise la science et les scientifiques et qui ne font pas tomber dedans. Donc là, c'était pour démontrer, si vous revoyez des choses par Reopen 9-11, ce sont bien des conspirationnistes. Voilà, c'était pour dénoncer. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais là, voilà, je voulais parler d'eux parce que j'ai revu un truc sur ces gens-là qui arrivent quand même, ce qui est assez fort avec les conspirationnistes, à toucher des gens de toutes les couleurs politiques, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre. Donc ça fait tout partout. Donc voilà, ne succombons pas à ces choses farfelues.
Alors on va parler maintenant de la gauche de droite, puisque si au début de cette émission tu hésitais sur l'appellation qu'on doit donner à cette gauche, est-ce qu'elle est de droite, qui est de droite et qui est de gauche et comment ça marche, on a quand même bien compris la nouvelle tendance du Parti Socialiste. Enfin c'est pas une nouvelle tendance, mais en tout cas elle est révélée et elle éclate sous la lumière et les spots. Et oui. Donc nous pouvons parler un petit peu de Monsieur Valls, qui fait quelques étincelles lui aussi.
Ah bah, du coup il se propose d'être le digne héritier de Sarkozy, et par les idées et par les méthodes. Je vais le démontrer avec deux petites infos. La première, c'est révélée par Le Figaro et Libération aujourd'hui. Le Figaro cite une source gouvernementale, hein, on n'a pas le nom, qui affirme que le gouvernement pense à augmenter de 2% la TVA. Cette mesure ferait rentrer 15 milliards d'euros dans les caisses de l'État. On comprend bien pourquoi ils ont besoin de 15 milliards d'euros, voire plus. C'est qu'à force de faire des allègements de charges sur les entreprises, il faut bien trouver de l'argent ailleurs. C'est exactement ce que faisait Sarko, ce qu'avait prévu de faire Sarko, avec sa TVA sociale. Sauf que là, ils vont pas l'appeler TVA sociale. Mais voilà, alors c'est dans l'air du temps. Il n'y a pas que lui hein, qui en parle, il n'y a pas que cette source gouvernementale. Il y a aussi le député socialiste Christophe Caresch qui l'a dit dans les échos, hein, lui aussi, qu'il fallait monter deux points le taux de TVA. Donc voilà le retour de la TVA sociale de Sarkozy par les héritiers de Sarkozy que sont Valls et compagnie. Et puis alors, dans la méthode, Sarkozy, il avait une méthode assez simple, c'est quand il voulait faire passer quelque chose, il faisait croire qu'il y avait une fuite dans les médias, et puis sur les jours suivants, il regardait les réactions, s'il y avait trop de réactions négatives, il abandonnait le truc. Eh ben, Monsieur Valls a repris exactement la même méthode avec le travail le dimanche, puisque ils ont laissé fuiter l'idée qui, pour le projet de loi sur la croissance qui est en cours d'élaboration, qui utiliserait peut-être la notion d'ordonnance hein, au lieu de passer par le Parlement dans des moyens raccourcis, pas très démocratiques, mais un peu démocratiques, puisque ça existe quand même, on a le droit de le faire. Voilà, il a lancé l'idée qu'il y aurait une renégociation sur le travail du dimanche. Grosso modo, ils veulent que tout le monde travaille tout le temps. Et il a testé un peu pour ce qui se passait. Du coup, il y a eu pas mal de réactions. Et là, machine arrière, non, mais rien n'est décidé. Exactement la méthode Sarkozy. Hein, et ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est la même méthode, mais c'est sur les mêmes domaines, c'est-à-dire le recul social. Puisque l'idée des capitalistes, hein, c'est de faire que si la société va mal, c'est qu'on travaille pas assez. Donc, on va travailler le dimanche, puis peut-être après retravailler le samedi, il n'y aura plus qu'un jour férié, un jour chômé dans la semaine, diminuer les vacances, etc., etc. Mais en fait, si les gens font que travailler, du coup, ils consomment pas non plus et ils ont le problème de plein d'autres choses. Enfin bon, bref, ça marche bien évidemment pas ce qu'ils font. Et puis surtout, comme disait Mitterrand, je vais citer Mitterrand, parce qu'il a été de gauche, il a fait semblant d'être gauche pendant un an et demi. Il disait que ce qui compte le plus, c'est qu'on ait le bonheur et qu'on ait du temps pour se reposer et pour se consacrer à autre chose que le travail, et que le travail, c'était pas le plus important dans la vie. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'Hollande n'est pas l'héritier de Mitterrand, puisque Hollande, dont on sait aujourd'hui hein, que dès 1983, il avait écrit un livre avec quatre de ses camarades, sous un pseudonyme, et toutes les mesures libérales que met en place aujourd'hui le Parti Socialiste à travers la politique de François Hollande, étaient déjà dans ce livre, hein, puisqu'ils avouaient déjà leur amour pour les entreprises, pour le capitalisme, pour donc l'inégalité sociale, toutes ces choses-là qui dépendent du système. Voilà. Et puis, du coup, je vais enchaîner, si j'ai bien tout compris, avec un petit mot sur Lyon. On va passer sur la page...
Non, alors je voulais juste moi aussi parler un petit peu de Monsieur Valls, si tu veux bien. Je voudrais revenir un petit peu sur son discours de « J'aime l'entreprise », si tu m'accordes quelques minutes.
Tout à fait.
Alors, c'est un discours dont il a prononcé devant le MEDES le 27 août dernier, un discours qui a fait...
Sensation
à l'université d'été du MEDEF. Moi, je vous propose d'aller le lire, si vous ne supportez pas la voix de Monsieur Valls, sur le site gouvernement.fr, le site officiel du Premier ministre. C'est sympathique, puisqu'elle en plus, la présentation est sympa, si vous voulez. Vous avez d'abord une introduction qui, ma foi, rien qu'elle vaut le détour quand même à lire. Et puis ensuite, vous avez des points. Alors, vous avez un point 1, la France a besoin de ses entreprises, point A, B, C, D, E. Vous voyez, le point 2, nous aidons nos entreprises et continuons à le faire, le sens des réformes engagées, vous avez des titres et des sous-titres. Alors là, c'est pareil, A, B, C, 1, D, vous avez compris, le E, j'avoue que c'est sur l'Europe, c'est un peu chiant à lire, mais enfin le reste, ça se lit plutôt pas, sinon pas trop mal. Et puis le point 3, ce que la France attend de ses entrepreneurs et de ses entreprises. Alors, c'est un poème quand même, ce discours, il faut le dire, que je ne sais pas si c'est lui qui écrit ses discours, mais il y a plein de choses dedans, alors quelques perles, hein, je vais vous en citer un petit peu, je vous mets tout ça bout à bout, vous prenez ce que vous voulez, allez le lire, franchement ça prend quand même pas tellement de temps, et c'est pas mal. Alors dans son introduction déjà il a conclu en disant un moment aussi de franchise, car je crois que nous pouvons nous dire les choses très directement, de l'amour nous l'avons compris. Donc il l'a dit, je le dis et je l'assume, la France a besoin de vous, la France a besoin de ses entreprises. L'institution qui arrive en tête dans les sondages d'opinion, ce sont les PME, les PMI, et ce, avant même la police ou l'armée. J'attends donc les sondages dont sont tirés ces résultats. Moi, je suis très intéressée par ça, je les ai pas trouvés hein, pour l'instant. Si vous avez trouvé ça, vous nous les envoyez. On nous explique, les entreprises sont celles qui produisent, prodire. Voilà un joli mot. Créer, innover, produire, investir, réinvestir, lancer de nouveaux produits. Voilà encore des jolis mots.
C'est bizarre, c'est les salariés qui font ça, c'est pas les entreprises, mais bon, tant pis pour lui.
Après, au point E de ce point 1, de grand 1, petit E, donc, nos grands groupes, nos entreprises de pointe, nos marques Total, L'Oréal, Carrefour, Accor, Alstom, sont connues et admirées dans le monde entier, et les Français considèrent à raison que c'est une partie de notre patrimoine. Nouvelle certitude, je veux bien la preuve que les Français considèrent donc L'Oréal et Carrefour comme un patrimoine national.
La classe. Et c'est Total.
Oui. Voilà. Alors, non, mais c'est quand même assez exceptionnel.
Ils payent quasiment pas d'impôts en France, d'ailleurs.
Que ce soit les premières entreprises que les gens sur ce territoire soient en capacité de citer, je veux bien.
Mettre de l'amour. Ouais.
Mais que ça fasse partie de notre patrimoine. Je crois qu'il a un peu vraiment des certitudes, ce monsieur. Il nous explique donc sur un gros paragraphe je souhaite que cette action de simplification soit systématique dans tous les domaines. Et il donne même un exemple un peu plus loin. Un exemple bien connu, c'est le nombre des branches qui structurent notre espace économique et social. Les conventions collectives. 700. Point d'exclamation. C'est trop. Point d'exclamation. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut simplifier, alléger et regrouper des branches. Et là, c'est vous qui avez la main. Point d'exclamation. C'est ça l'intérêt aussi de lire aussi ces discours, la manière dont ils sont retranscrits. On y perd une intensité peut-être de certains orateurs ou oratrices très doués, mais on y gagne un petit peu dans la lisibilité et quand les points d'exclamation sont là, c'est qu'ils ont été validés. Ça se termine par « Nous devons agir avec responsabilité, patriotisme et confiance dans l'avenir ». Un beau programme. La France a tant d'atouts, tant d'avantages compétitifs. À nous, à vous de vous en saisir pour faire gagner notre pays. Et donc il a conclu sur cette petite merveille. Monsieur Valls, merci beaucoup. Beaucoup d'efforts donc pour ce discours, mais il faut dire qu'il est bien accompagné. Je voudrais juste signaler que monsieur Macron, tout nouveau ministre que déjà nous adorons particulièrement, Emmanuel de son petit nom, hein, tout juste nommé, monsieur Macron a reçu les syndicats et alors il a évidemment commencé par les amis de toujours.
La CFDT,
il a donc reçu Laurent Berger vendredi dernier. Thierry Lepaon de la CGT, ça a été que ce mardi, un petit peu de décalage. Il faut dire que la CFDT fait tout pour accepter toutes ces belles réformes que M. Hollande et son équipe veulent mettre en place. Alors ce qui est très drôle, c'est de voir les réactions des uns et des autres. Alors pour le boss de la CFDT, il a expliqué dans les Échos de ce mardi, article que vous pouvez retrouver, entretien que vous pouvez retrouver sur le site internet des Échos, il dit « J'ai été effaré de voir qu'on pouvait être sifflé au PS parce que l'on prononçait le mot « entreprise ». Alors, la CGT répond, donc dans l'opinion, Manuel Valls a une vision ringarde de l'entreprise, il est le seul qui pense que dans notre pays, l'entreprise c'est le patron, voilà, on comprend un petit peu la différence entre les deux syndicats. La CFDT est vraiment, vraiment à fond avec le gouvernement actuel, ils sont tout contents, d'ailleurs ils le disent hein, très clairement dans cette, ce long entretien de Laurent Berger dans les Échos, il le dit longuement, il s'explique, oui, ils sont réformistes et fiers de l'être, allons-y.
C'est bizarre. Hein? Le réformisme de la CFDT, c'est à chaque fois des reculs sociaux, du recul social, et jamais des avancées. C'est alors qu'on pourrait être réformiste pour faire gagner des droits aux salariés. Ben non, la CFDT, ils sont contre. Ben, ils sont plutôt du côté patron.
Oui, alors Laurent Berger explique quand même dans cet entretien que les entreprises, c'est un peu des vilains parce qu'ils répartissent pas bien l'argent, tout ça, que quand même, il faudrait qu'ils payent les gens. Mais enfin bon, au final, c'est exactement le même discours. Mettez les deux en miroir. Et vous verrez que cette histoire de salaire, de comment on tape sur l'entreprise et comment on leur dit que c'est des vilains, c'est exactement les mêmes la même manière de le dire et de l'écrire dans le discours de M. Valls et de Laurent Berger, c'est exactement la même chose.
Alors on va revenir sur l'actualité régionale, cette fois-ci avec un petit mot ridicule sur Lyon, où Lyon est, je pense, la ville la plus ridicule du monde sur le plan du cyclisme, puisque vous savez qu'ils ont construit un beau tunnel pour les modes doux, soi-disant, en parallèle du tunnel de la Croix-Rousse. Et il y a des problèmes sur ce tunnel, il y a eu pas mal d'accidents parce qu'il est mal éclairé, que la séparation cycliste-piéton est pas très claire, du coup les piétons vont où il faut pas, et peut-être les vélos d'ailleurs aussi où il faut pas, du coup quelques accidents. La mairie a décidé de mettre un radar d'abord pédagogique, et donc déjà c'est ridicule. Alors ils ont mesuré des vélos, alors quelques-uns allaient à plus de 25 km/h, ce qui était très très peu de vélos bien évidemment, parce que il faut rouler quand même vite, 25 km/h, ça fait déjà pas mal. Mais ils ont décidé d'installer un radar définitif et de mettre une limitation de vitesse à 25 km/h pour tous les vélos. C'est intéressant parce que sur les autres pistes cyclables, il n'y a aucun souci entre les vélos et les piétons, notamment sur la piste cyclable qui est une des rares. Hein. Il y a très très peu de pistes cyclables à Lyon. Hein. Il y a essentiellement des bandes cyclables, mais sur les pistes cyclables comme celle qui va à la Part-Dieu, bon, il n'y a pas de souci particulier avec les piétons. C'est juste que celle-là, elle est mal conçue, et plutôt que d'accepter de mal concevoir les choses, ils accusent les vélos. Alors, ils veulent pas accuser les piétons quand même, mais ils accusent les vélos de rouler trop vite. C'est pas tous les jours qu'on accuse des vélos quand même de rouler trop vite. Mais bon, voilà, c'est le ridicule de Gérard Collomb et de ses amis sur le pseudo-développement des modes doux à Lyon. Alors, c'est pas la première fois, vous avez tous entendu, ça s'est terminé hier, la fausse installation, l'installation d'un faux chantier Place du Pont à la Guille pour essayer d'empêcher ces Roms ou ces gens comme ça un peu bizarres qui faisaient de la revente de choses qu'ils avaient récupérées. Pour empêcher tout ça, parce que c'est sale, il paraît, de faire de la revente, ou c'est mal de faire de la revente. Et Lyon trouve des fausses solutions à plein de problèmes, ou à plein de faux problèmes d'ailleurs, du coup, parce qu'il n'y a pas de problème de vélo, et ces gens-là qui vendent des trucs, c'était pas un problème non plus. Tout ça est une question finalement d'incompétence, voire de racisme, mais ça je me prononce peut-être un peu à tort. Ou pas. Alors on va rester dans la région, on va aller à Rieux-la-Pape.
Oui. Grande nouvelle, nouveaux équipements pour les 13 policiers municipaux de Rieux-la-Pape. Et oui, ils vont bientôt être équipés de caméras portatives. Ça aurait pu, hein, des caméras portatives qui vont être accrochées à leur gilet dans le but de filmer les interventions, bien évidemment. Alors, normalement, le projet prévoit que les flics auront l'obligation de nous avertir quand nous allons être filmés.
Ceci dit, ils vont peut-être arrêter de tutoyer tout le monde, d'être agressif et d'être raciste.
Alors, écoute, on verra bien, puisque s'il va y avoir aussi des caméras, une deuxième caméra qui va être installée à l'intérieur des voitures. Excusez-moi, donc Rieux-la-Pape, ils n'en ont pas 50, donc bon, pour l'instant, ça va aller vite. C'est des images qui ne devraient pas être conservées plus de 15 jours. Voilà, alors comme tu le disais, est-ce qu'ils vont se mettre à être plus sympathiques? Alors, c'est pas tout à fait l'idée de monsieur Vincent Deck, maire UMP de Rieux-la-Pape. Il explique au Progrès, quand le contrevenant sait qu'il est filmé, il a un comportement plus cordial et on a constaté une baisse de 70% des outrages agents. Donc voilà, moi c'était juste pour vous prévenir que maintenant et à l'avenir, c'est sourire forcé, quoi qu'il arrive, face au bleu. Voilà, parce que si jamais ça commence là, eh ben, on peut penser que les autres aussi seront tous équipés.
Ceci dit, il y a peut-être moins d'outrages agents aussi. Pour la raison que je disais tout à l'heure, c'est que tous les faux outrages à agents qu'on a régulièrement, du coup, la police peut plus dire oui, ils m'ont insulté, puisqu'il y a les caméras aussi, donc ça peut être à double tranchant peut-être.
Ouais, mais comme la plupart du temps, c'est des humiliations, de la discrimination et des menaces qui se font sans que derrière il y a un dépôt de plainte ou qu'il y ait même de suite dans un sens ou dans un autre, ça restera des accrochages de la vie quotidienne et finalement, si ces trucs sont gardés 15 jours, voilà. Ça n'empêchera pas que... Ils peuvent peut-être un peu, les flics, être embêtés pendant les premiers temps, c'est-à-dire de se sentir surveillés, parce qu'on en fait quand même aussi des Robocop avec tout un attirail, avec GPS intégré, hein. Comme ça c'est bien pratique, on sait exactement s'ils sont en train de pisser ou pas, en tout cas pour leur patron. Voilà, c'est aussi dans quel comportement et quelle intégration, et au fil du temps, est-ce que tout ça va pas être normalisé et devenir tout à fait acceptable pour eux, et que, voilà, il y a d'autres pays qui ont tenté de mettre ça en place, et on peut pas dire que pour autant, les flics... et pas des actes de violence assez régulièrement.
Non, puis ça n'empêchera pas le racisme, des contrôles aux faciès ou des choses comme ça.
Je te rappelle qu'aux États-Unis, un certain nombre d'États ont mis en place un système de vidéosurveillance continue dans les voitures et ça n'empêche pas, comme on a pu s'en rendre compte, des flics d'assassiner des gens.
Non, ça n'empêche pas, parce que de toute façon, tout le monde sait qu'il l'a assassiné, il l'a avoué, mais le flic a eu le droit de, tuer le noir parce que c'est un noir.
Oui, enfin, il y a cette affaire, mais il y en a eu d'autres au mois de juillet, il y a eu celle de New York, donc voilà, c'est, d'une manière générale, ça n'empêche pas.
Le flic reste une force de répression, et une force de répression, ça réprime.
Oui.
C'est pas fait pour t'apporter de l'amour, que je sache.
Non, tout à fait. Alors, on va parler d'amour, on va parler de Gérard, on va parler de Collomb.
Il y a toujours beaucoup d'amour avec Gérard.
Ouais. Parce que notre bon Gérard Collomb, il a fait passer une petite annonce. Donc c'est un CDD sur 3 ans, ça se passe à Paris. C'est pour être chauffeur, alors bon, évidemment c'est pas tout à fait un chauffeur qui se cherche, il cherche plutôt une entreprise, puisque le Grand Lyon a lancé un appel d'offres pour les déplacements de Gérard Collomb à Paris. Alors c'est un contrat donc sur 3 ans qui varie entre 45 000 et 180 000 euros selon les utilisations, paraît-il, selon la fréquence d'utilisation. Alors, je rappelle que notre bon maire est sénateur, entre autres, puisqu'il a un certain nombre de casquettes et de titres.
Il prend le boulot d'une dizaine de personnes, grosso modo.
Ouais, puis surtout le pognon aussi, hein, tant à faire, ça va avec. Alors, donc, en étant sénateur, je vous rappelle qu'il a des frais de taxi, des frais de péage qui sont remboursés. Il peut aussi avoir accès à un véhicule du parc automobile du Sénat, et puis il dispose d'une carte RATP à sa disposition, mais a priori...
Ça suffit pas.
Ça suffisait pas pour notre bon Gérard Collomb, qui donc fait cet appel. Alors, depuis que le Progrès a révélé cette affaire, les collaborateurs et collaboratrices de Gérard se sont quand même un petit peu mobilisés. Donc, ils ont expliqué que, oula, mais 195 000 euros, c'est si vraiment il y va tout le temps à Paris, puis si vraiment tout le temps il s'en sert de la voiture. Premier point déjà sur lequel ils ont beaucoup insisté. Deuxième point sur lequel ils ont insisté, c'est que non mais vous comprenez pas, quand il va à Paris, c'est pas juste pour aller du domicile là où il dort, il est berger, au Sénat, là où il va travailler. Il va avoir des ministres, il va avoir des chefs d'entreprise, des promoteurs pour faire avancer les dossiers lyonnais. Et là je citais une collaboratrice qui a répondu à Lyon Capital. Donc voilà, on comprend mieux pourquoi notre bon Gérard a besoin de poser ses fesses dans une voiture plutôt que de prendre un tacos.
Ou les transports en commun.
Ah oui, merci, dis-le.
Mais ça, il aime pas les transports en commun.
Voilà, donc chauffeur disponible, discret, voilà, c'est les 3 ans sur Paris. Si vous êtes disponible, vous pouvez toujours écrire à Gérard Collomb. Il a plein d'adresses. Par contre, c'est un peu compliqué pour envoyer un CV, parce que on ne sait plus bien quel réseau il faut utiliser.
La révolution passera par le vélo, camarade. Ah, la bicyclette.
Radio Cani, la rebelle.
Alors, on va parler un petit peu d'environnement pour terminer ce Canu Info avec la nouvelle condamnation, mais c'est une parmi tant d'autres, vous me direz, de la France pour le non-respect de la directive nitrate, hein, directive 1991. Donc c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a condamné aujourd'hui la France, mais condamné sans sanction financière. Donc du coup, la France va continuer de faire comme s'il ne se passait rien. C'est lié à l'agriculture productiviste et à l'élevage intensif. En fait, dans ces directives, la France a l'obligation de contrôler les cours d'eau et que s'il y a de la pollution, et ben d'arrêter, d'interdire l'épandage de nitrates ou des choses comme ça. Bien évidemment, la France ne veut pas le faire. Et alors ça, c'est pas lié au gouvernement, hein, c'est lié au fait que l'agriculture productiviste est défendue par tous les partis politiques, de la gauche à l'extrême droite, hein, puisque alors du coup là, il n'y a pas d'exception à part, hein, chez les écolos, bien évidemment. Et c'est les seules exceptions. Puisque ce soit le PS, l'UMP, le FN, le Centre ou tous les autres, ils défendent ce modèle-là. Donc du coup, jamais personne, quand il est élu, applique cette directive nitrate, parce qu'ils sont contre, parce qu'ils pensent que polluer, c'est bien, et que l'agriculture productiviste, c'est la meilleure agriculture du monde. Donc du coup, tout est bloqué tout le temps. Et heureusement que la France n'a pas pour l'instant d'amende, parce que si jamais il y avait des amendes, ça serait assez énorme, hein, au niveau financier, les amendes sur cette directive nitrate. Mais bon, voilà, la France y échappe, tout le monde est content, les agriculteurs, le PS, l'UMP, bon, de toute façon, ils avaient fait pareil avant. Voilà, on nage dans le bonheur des eaux polluées. C'est plus de la moitié, hein, je vous rappelle, des rivières et des fleuves français qui sont pollués par les nitrates. Je ne parle pas des eaux de pollution, parce qu'il y en a moult. Tout le monde se bat pour essayer de polluer le plus possible, j'ai l'impression. On revient sur Fessenheim, qui est toujours pas fermé, mais on va pas parler de ça. On va parler des 55 militants de Greenpeace qui sont passés devant le tribunal et qui attendaient à 15h cet après-midi le rendu du tribunal sur ce qui s'est passé. Je vous rappelle les faits, hein, c'était le 18 mars. C'était la 12e fois que Greenpeace faisait ça. Ils sont arrivés, donc à 55, peut-être un peu plus, pour essayer de rentrer dans la centrale de Fessenheim pour démontrer que le nucléaire, c'est quelque chose de fragile et que eux, en tant que militants, ils peuvent rentrer. Ça voudrait dire que n'importe quel groupe terroriste pourrait faire la même chose, poser une bombe, avoir un bazooka, faire tout péter, quoi. Bon. Alors chaque fois, ils démontrent ça, que le nucléaire est quelque chose de très, très faible. Au niveau sécurité. Et ils y sont arrivés, hein, parce qu'ils sont rentrés dedans. Bon, ils ont un peu forcé le truc, hein, forcément. Il y a même un gendarme qui dit, que je l'ai trouvé très ridicule, ce gendarme, puisqu'il dit, ah mais attendez, l'action, elle n'était pas du tout pacifique, ils étaient très déterminés. Bon, ils sont rentrés, ils ont mis des banderoles, monsieur le gendarme. Hein. Ils n'étaient pas armés, ils n'ont pas amené de bombe atomique, ni de bombe, tout court. Voilà, alors si ça, c'est pas pacifique d'amener juste une banderole, bon, c'est peut-être un gendarme d'extrême droite, hein, vous allez me dire, mais bon, c'est juste pour démontrer à nouveau la non-fiabilité des sites nucléaires français. Et ça avait bien démontré, du coup. Et ben voilà, ils ont été condamnés quand même par le tribunal à deux mois de prison, pardon, avec sursis. C'est traditionnel. Jusqu'à maintenant, ils ont toujours pris moins de 6 mois de prison avec sursis. Et ils ont pas été. Alors, ils ont été condamnés pour la violation de domicile, qui est quelque part assez vrai, puisque le but c'était de démontrer que le domicile, c'est-à-dire la centrale, était violable. Ben, elle l'était. Donc, ils ont été condamnés pour ça, mais pas pour la dégradation. Donc voilà, le procureur avait demandé un peu plus, bien évidemment. Ce qu'on peut dire, ce qui s'est passé quand même, parce que sur les 55, ils étaient très peu à être présents au procès. Ils étaient 6, très exactement. Non, ils n'étaient pas 6, ils étaient 4 ou 5. Alors pourquoi il y en avait très peu? Parce que les autres ont décidé de pas venir en solidarité avec certains à qui on a interdit de venir au procès. Alors je rappelle les faits, dans ces 55 militants, il y a plein de nationalités, plus d'une vingtaine, des gens qui viennent, des militants qui viennent de l'Europe, mais d'autres qui viennent d'autres pays, qui sont hors espace Schengen, 4 Turcs, un Australien, un Israélien notamment. Ces gens-là, ils ont eu une interdiction de séjour en France, donc ils n'ont pas le droit de venir à leur propre procès. Donc, en solidarité, la majorité des militants ont refusé de venir au procès en disant ben, « si eux, ils n'ont pas le droit de venir, nous, on ne vient pas ». Voilà. Donc, on rappelle qu'effectivement, il y avait quand même une sorte de double peine pour ces militants-là, qui n'étaient pas européens. Et pour signaler, puisque la double peine a été plus importante que ça encore, quand ils ont été arrêtés, on leur a obligé à faire ce fameux test ADN. Vous savez, il y a plein de gens sont arrêtés, on oblige au test ADN. Et il y en a 19 qui avaient dit non. Donc eux, ils ont eu une autre peine supplémentaire d'amende de 300 euros. Hein, je vous rappelle que la double peine liée à l'ADN, elle concerne des gens qui sont pas condamnés aussi. Il y a des gens qui sont arrêtés, et puis il s'avère que c'était pas eux du tout, mais on leur a demandé de donner l'ADN, ils ont refusé, ils sont condamnés. Donc ils sont innocents mais condamnés pour le refus de prélèvement d'ADN. Donc c'est des délits qui sont inventés du coup en prison, en incarcération, en commissariat par la police et la justice qui travaillent main dans la main. Voilà. Donc ça a été le cas de ces 19 militants qui avaient refusé l'ADN, la prise d'ADN. Je crois qu'on est arrivé au bout. Au bout du bout, on va faire un petit agenda d'abord. Un petit agenda, moi j'ai qu'une seule chose, la rentrée militante se met en place tout doucement, même si on sait qu'au mois de novembre, il va se passer plein de choses autour de Radio Canu et des éditions libertaires. En attendant, nous avons une conférence importante donnée par Michel Briganti, qui est invité en fait par le collectif 69 de vigilance contre l'extrême droite. Puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle La galaxie Dieudonné pour en finir avec les impostures, donc il vient parler de Dieudonné, de toute la mouvance d'extrême droite, mais qui s'assume pas, qui arrive caché avec il y a Dieudonné, mais il y a Soral, et leurs amis, tous ces négationnistes, conspirationnistes qui gravitent autour de ces groupes ou de ces groupuscules. Donc voilà, il viendra parler de ça. Donc c'est mardi, on sera le 9 septembre à 19h. Ça se passe à la Maison de la Guillotière. Ça se situe donc dans le 7e arrondissement de Lyon, 25 rue Béchevelin. Et c'est au métro Guillotière ou au tram T1. L'arrêt s'appelle Saint-André. Donc voilà, c'est à 19h, organisé par le collectif 69 contre l'extrême droite. puis il reste quelques minutes, je voulais reparler de l'appel à dons de Radio Canu pour vous réexpliquer un petit peu les enjeux de cet appel à dons, puisque Radio Canu habite, j'allais dire entre guillemets, à son local 24 rue du Sergent Blandan depuis presque peut-être 30 ans, peut-être même plus de 30 ans maintenant, mais que le loyer a augmenté de manière considérable ces 30 dernières années, hein, c'est plus que doublé, et on a eu d'ailleurs 20% d'augmentation de loyer cette année, que la radio elle est financée par le fonds de soutien à l'expression radiophonique et les cotisations des animateurs et des animatrices qui autofinancent ce moyen d'expression donc, qui nous appartient. Et qui vous appartient si vous venez faire une émission, parce que c'est ouvert à toutes et à tous, il faut venir voir la commission programmation le mardi à 19h. Mais donc pour faire vivre cette radio, même si les soucis financiers apparaissent tout juste, on commence à se poser des questions de comment rééquilibrer les comptes et comment survivre à 5, 10 ou 15 ans. Et le moyen, c'est peut-être d'avoir notre propre local, comme l'ont fait les copains de la Plume Noire, par exemple, qui ont acheté leur local sur les pentes de la Croix-Rousse et qui ne sont plus expulsables, ce qui pourrait arriver donc à Radio Canu dans quelques années, voire dans quelques mois. Donc on a lancé un appel à dons pour essayer de récupérer un maximum d'argent. Et cet argent additionné à l'argent qu'on a mis de côté ces dernières années, on va essayer d'acheter un local pour essayer de continuer de faire des émissions différentes, de la musique différente et de l'information différente. Donc si vous avez un petit peu d'argent, et si vous en avez beaucoup, vous pouvez le faire aussi, envoyez un don à Radio Canu, donc je vous donne l'adresse, c'est Radio Canu, boîte postale, donc c'est BP 1101, 69 201, Lyon, CEDEX 01. Vous pouvez faire des virements aussi sur internet, sur le site de radiocanu.org. Il y a le code IRBAN pour faire des virements. Enfin voilà, un petit coup de pouce symbolique. Si vous n'avez pas d'argent, un mot de soutien, c'est déjà beaucoup pour dire que, pour qu'on essaye de continuer d'émettre pendant de nombreuses années. Donc voilà, j'ai tout dit. La semaine prochaine, l'émission La Petite Cuillère qui après nous revient. Vous savez que c'est la rentrée à Radio Canu. Les émissions font quand même souvent des pauses estivales. Comme on n'est pas salarié, mais qu'on a quand même droit aux vacances, on s'arrête un peu. Ça revient tout doucement. Méga Combi a recommencé hier. Les Canu Info se remettent en place aussi tout doucement, mais sérieusement. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour l'équipe du jeudi à 19h et demain peut-être pour l'équipe du 19h, sinon lundi c'est sûr, l'équipe de lundi est elle présente depuis quelques semaines déjà.
Et ben à bientôt, bon week-end à tous et à toutes, ciao ciao.
Bye.